BFM Bourse, le club de la bourse.
Et alors un feuilleton aussi depuis le début de l'année, Boeing, qui enchaîne les déboires, d'ailleurs de nouveaux déboires sur une roue qui s'est détachée d'un appareil là, ces dernières heures encore pour Boeing, mais la publication, elle, est saluée. Boeing a annoncé ses résultats et ses perspectives, le titre gagne 2% aujourd'hui à Wall Street. On en parlait avec John Plassard à 15h30, si vous avez raté le direct replay sur notre application BFM Business, le replay d'ailleurs est d'ores et déjà en ligne. Nos coéquipiers du club pour mesurer le potentiel des marchés, Emmanuel Salles, bonsoir Emmanuel.
Bonsoir Guillaume.
Président de la Financière de la Cité, bienvenue. David Gau aussi nous accompagne, bonsoir David.
Bonsoir.
Partenaire, responsable, directeur de l'investissement de B. Durand Capital Partners. Merci beaucoup à tous les deux de nous accompagner ce soir. Bon, on est encore dans la première phase, le début de la saison de publication, mais on accélère sérieusement là. La tonalité globale, comment vous sentez là, cette tonalité, l'état des entreprises maintenant qu'on commence à avancer un peu plus sérieusement dans cette saison, David?
On a un peu tous les cas de figure, déjà. On a des sociétés qui finalement produisent des résultats qui sont pas très bons, mais qui sont moins mauvais qu'attendus. Et donc le marché a tendance quand même à saluer ces résultats qui sont moins mauvais. Vous avez d'autres sociétés qui sont prudentes, notamment au niveau du chiffre d'affaires, et donc qui se projettent assez peu. Et là, c'est vrai que le marché a un peu de mal à se positionner. Et puis comme vous l'avez mentionné, vous avez quand même les sociétés qui osent un peu se projeter et emploie le temps du futur dans la publication de résultats, et avec ce temps du futur indique que finalement les perspectives sur les trimestres à venir semblent plutôt bien assurées, et le marché a envie d'y croire. Et finalement, bon, on le voit avec Tesla notamment, hein, un effet d'annonce et puis un rebond sur la valeur. Donc c'est plutôt on a plutôt un peu tous les cas de figure, mais c'est assez en bonne santé, enfin je dirais, de ce point de vue là il n'y a pas pour l'instant de grosses
et quand grosses quand les entreprises parlent au futur, comme vous dites, quand elles surprennent positivement ou qu'elles rassurent le marché, on voit que le marché est capable de sanctionner très positivement, dire de saluer vraiment. On a donc Hilton, les hôtels optimistes sur le potentiel du tourisme toujours. Hilton gagne 6%. Texas Instruments, discours très positif sur l'écoulement des stocks. Texas Instruments gagne aussi 6% en ce moment sur le marché américain, et Tesla, vous l'avez cité, gagne 12%. Donc malgré les niveaux de valorisation, le marché est capable de saluer positivement les bonnes surprises. Il en reste capable, on se posait la question.
Oui, d'autant plus qu'il est capable de connecter avec certains indicateurs macroéconomiques qui nous montrent qu'en fait, les choses sont en train potentiellement de réaccélérer, notamment au niveau des exportations. On le voit, hein, 3 mois sur 3 mois, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Chine, que ce soit au niveau global, on a des chiffres qui surprennent à la hausse. Et donc l'image des résultats des 3 derniers mois, en fait, probablement sur les 3 prochains mois, on va avoir cet effet macroéconomique qui va jouer favorablement. Et donc il n'est pas illégitime de se dire que les 3-6 prochains mois pourraient être en fait meilleurs qu'attendus. Et quelque part, tout ça est aussi validé par la Fed, qui finalement continue de ne pas baisser les taux, en disant finalement la situation, on vous le dit, est finalement meilleure qu'attendu.
Oui. Visa aussi sur le comportement des consommateurs, les achats, Visa gagne 3%. Oui. Parce que le discours est aussi plutôt favorable et optimiste. La publication également, elle est conforme aux attentes, la publication. Emmanuel, votre premier regard à vous, parce que là David, voilà, vous avez état de sa vision des publications, quelle est la vôtre?
Écoutez, j'ai le sentiment effectivement que l'environnement global est plutôt favorable. Il est porté, il est vrai, par des conditions macroéconomiques et monétaires tout à fait exceptionnelles aux États-Unis. Donc les États-Unis restent le consommateur en dernier ressort. C'est là où se trouve le principal gisement de croissance mondiale. Et effectivement, les marchés s'alignent sur un pilotage macroéconomique et financier qui a été remarquable de la part des autorités américaines depuis maintenant près d'une dizaine d'années. Je crois qu'il faudra néanmoins surveiller ce qui se passe en Europe, et notamment la réponse de la BCE à cet environnement d'activité de croissance important qui s'accompagne, vous l'avez souligné, d'une inflation peut-être également plus forte que nous ne l'attendions, compte tenu des politiques monétaires qui avaient été menées ces derniers mois. Mais globalement, l'environnement est effectivement plutôt favorable et conduit, malgré le niveau des taux d'intérêt à long terme, à demeurer investi structurellement sur les marchés d'actions à long terme.
Et alors, on voit les publications plutôt, alors diversement accueillies, hein, il y a aussi des mauvaises nouvelles, on en parlera. Il y a Kering, on ne va quand même pas occulter. Kering, c'est une grosse déception, même si le groupe avait déjà prévenu, avait warné, comme on dit, au mois de février. Bah, Kering, la publication, les perspectives, moins 5% aujourd'hui Kering. On a Eurofins aussi à Paris qui souffre beaucoup, qui déçoit, qui perd 7,5%. Donc on voit que le marché est capable aussi de sanctionner négativement. Mais aussi des bonnes nouvelles, aussi des belles publications. Et au global, c'est plutôt positif. Ça n'empêche pas le marché aujourd'hui de reculer un peu. parce qu'on a cette pression obligataire. Vous le disiez, attention au risque de mauvaises surprises du côté des banques centrales, attention à l'inflation, c'est ce que vous venez de dire à l'instant, Emmanuel. Le 10 ans américain est à 4,66 aujourd'hui. Le 10 ans français est à 3,1%. Est-ce que vous êtes dans le camp de ceux qui attendent moins de deux baisses de taux désormais aux États-Unis, voire pourquoi pas, ils sont 20%, c'est pas beaucoup, mais quand même 20% à penser qu'une hausse de taux supplémentaire est encore possible aux États-Unis?
Écoutez, je ne crois pas à une remontée des taux d'intérêt directeurs aux États-Unis. Je crois qu'une grande partie des chiffres d'inflation provient d'effets retard sur la consommation, notamment l'assurance liée à l'achat de biens durables. Vous avez des effets, vous savez, l'inflation n'est pas quelque chose qui est totalement linéaire. Vous avez des effets de retard dans la manifestation des chiffres d'inflation qui se produisent actuellement aux États-Unis. Donc une remontée des taux directeurs aux États-Unis, je n'y crois pas. Il me semble que la Fed fera attention de ne pas casser la dynamique de croissance. Il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, la Banque centrale a un double mandat. C'est à la fois de contenir l'inflation, bien sûr, mais également de faire en sorte que la croissance reste soutenue. Mmh. Donc on n'ait pas trop de chômage. Et donc elle est particulièrement sensible à ce mandat dual, comme on dit, outre-Atlantique. Et donc je ne vois pas la Fed s'engager dans un cycle de remontée des taux d'intérêt. Et je pense que...
Et le marché fait le job à sa place, à la limite. On est à 4,66.
Oui, le marché fait le job. Enfin, disons, le marché, il se porte plutôt bien. Hein. Et quand le marché se porte plutôt bien, c'est que la liquidité est là. Il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, la bourse, c'est d'amélioration, enfin de fonctionnement de la liquidité. Le marché boursier joue une fonction tout à fait différente aux États-Unis qu'en Europe. Donc aujourd'hui, je ne vois pas la Fed remettre en cause fondamentalement son cycle de baisse des taux d'intérêt. Et un dernier point, je pense que les États-Unis pourraient se contenter d'une inflation inférieure à 3% et que l'objectif des 2% n'a pas la même importance qu'il a aux yeux des autorités monétaires européennes.
Alors, est-ce que ce scénario-là, à savoir une Fed qui baisserait ses taux, qui commencerait à les baisser même si l'inflation n'est pas revenue à 2%, est-ce que ce scénario-là, vous y croyez? Parce que ce serait un sacré nouveau paradigme, en l'occurrence. On aurait une inflation au-dessus des 2% et quand même des baisses de taux. Alors une inflation de 3%, c'est plutôt bon pour la croissance quand même. Et en même temps, des baisses de taux. Donc le scénario plus que parfait en l'occurrence. On parlait du futur, là on serait dans le plus que parfait en l'occurrence, David.
C'est un peu ce que se prennent à rêver les marchés, en fait, d'avoir un petit peu ce contexte d'ensemble. Alors il y a le sujet de l'inflation sur la baisse des taux, mais il y a quand même un autre sujet qui est en train d'arriver derrière, c'est la dette. Et le coût de la dette, on le voit, est en train d'exploser de partout. Donc on est une banque centrale aujourd'hui, on ne peut pas rester à l'écart de ce débat. Nécessairement, la Fed voit, notamment 2025-2026, on va avoir des renouvellements d'émissions obligataires absolument phénoménales. Hein. Le gros du renouvellement et du rôle en fait de obligataires va intervenir dans les deux prochaines années. Parce qu'aujourd'hui, en fait, une majorité d'entreprises et de particuliers ne sont pas tant que ça affectés par la hausse des taux. Et alors, où on l'ignore, et puis ben, on va avoir une crise, parce que soudainement, l'année prochaine ou 2026, on va véritablement voir l'impact des taux élevés. Ou alors, finalement, la Fed a réussi à stabiliser l'inflation à un niveau qui reste acceptable. Et puis, il y a quand même un travail qui est fait graduellement pour baisser un petit peu les taux d'intérêt, pour que finalement, l'année prochaine, quand tous les crédits sont renouvelés, on ait un système qui, finalement, ne prenne pas les entreprises et les particuliers à la gorge. Donc ça va être un élément important, et c'est pour ça qu'on pense qu'on peut avoir quand même 3 baisses de taux cette année, 25 points de base à chaque fois. Quelque chose de régulier, finalement, pour changer un peu. Ne pas trop surprendre les marchés, montrer que voilà, il y a eu des efforts et des progrès de fait. Ça ne nous emmènera pas à des niveaux extrêmement bas non plus, hein, mais ça serait finalement assez bien. Et finalement, c'est un peu ce que nous disent les taux long terme actuellement, qui montent tous un peu en tandem. Il y a un peu cette idée que finalement, il n'y aura pas de trop grosses disparités dans les différentes politiques.
Peut-être un peu moins de volatilité aussi espérée sur le marché obligataire.
On peut espérer, parce que c'est vrai que ça l'a beaucoup pénalisé.
On est à 19 minutes de la clôture, on entre dans la dernière ligne droite et on accélère. Hélas, à la baisse, puisque le CAC 40 a maintenant donc 19 minutes, perd 0,25%. Rien de méchant, mais on était encore dans le vert il y a une demi-heure. Voilà, on a basculé légèrement dans le rouge à Paris, avec aussi Wall Street qui a changé d'humeur. Wall Street avait ouvert nettement dans le vert grâce aux publications. Et puis finalement, le S&P 500, là, à l'instant, perd 0,27%. Les valeurs qui se distinguent, alors on le disait, à la baisse, Eurofins, scientifique, on y consacre un article d'ailleurs sur bfmbourse.com. N'hésitez pas à le consulter, cet article, parce que Eurofins, sur sa publication, déçoit pas mal et les perspectives, moins 7%. Donc, depuis son introduction en bourse, c'est un entrée dans le CAC 40, attention, pas d'introduction, mais depuis son entrée dans le CAC 40, c'était en 2021, il y a presque 3 ans et demi, eh bien Eurofins a perdu 50% quand même. Voilà, une nouvelle entrée au CAC qui s'est soldée ensuite par une forte baisse. C'est le cas pour Eurofins, c'est le cas pour beaucoup d'acteurs quand ils entrent dans le CAC, ensuite, paf, c'est beaucoup plus compliqué. Pour Eurofins, aujourd'hui encore plus, donc après cette publication, moins 8%, lanterne rouge, l'article est donc consultable sur notre site BFM Bourse. Kering aussi en repli de plus de 6%, on va y revenir dans un instant sur Kering, qui désormais en bourse pèse deux fois moins que Richemont par exemple. Kering est en train de devenir un nain du luxe en bourse. Deux fois moins de Richemont en termes de capitalisation. Et puis à la hausse, à l'inverse, on a Renault qui hier avait un peu sous-performé. Aujourd'hui, Renault gagne 3%, puis surtout STMicroelectronics. Grâce à Texas Instruments et sa publication, le titre STM gagne 5,2%. On en parle avec Emmanuel Salle et David Go. Oui, les semi-conducteurs, la semaine dernière, c'était compliqué. Là, ça va mieux. Texas Instruments nous dit, on arrive, ça y est, à écouler davantage les stocks. Texas Instruments à Wall Street gagne 6% aujourd'hui. On a ASM aussi qui tient un discours très positif désormais. Et STMicroelectronics gagne 5,2%. Voilà. La semaine dernière, on se demandait si c'était la fin du méga trend sur les semi-conducteurs. Là, on se dit que c'était juste une pause, une respiration pour mieux rebondir. Enfin, comment est-ce que vous voyez le potentiel, David?
Sur les semi-conducteurs, l'année 2023 a été compliquée. Hein. Au niveau opérationnel, on avait des niveaux d'inventaire qui étaient élevés. Il a fallu épurer en fait ces inventaires. Donc en fait, on a typiquement un secteur qui depuis 3, 4, 6 mois sort en fait d'une phase de baisse et de ralentissement. Et c'est pas le cas Nvidia qui est très spécifique, mais c'est en fait tout le reste des semi-conducteurs, que ce soit les semi-conducteurs mémoire, les semi-conducteurs analogues, tout ça a souffert en fait l'an dernier. Et donc vous avez maintenant ce rebond. Et ce qui explique, entre autres, finalement, les publications de Texas Instruments. C'est aussi un secteur, pour certaines de ces valeurs, qui est moins cher que les sociétés de design de chips. Donc, si vous voulez continuer à jouer, en fait, cette embellie et cette tendance, à la fois sur l'intelligence artificielle, mais aussi sur les segments plus classiques du hardware, c'est très intéressant d'aller se positionner sur certains de ces acteurs qui sont alors moins haute technologie que Nvidia, mais qui ont aussi des valorisations très intéressantes. Texas Instruments, c'est quand même 50% de marge opérationnelle, donc c'est une boîte extrêmement efficace et en termes de valorisation qui se paye la moitié de Nvidia. Donc dans un portefeuille, on peut avoir du Nvidia et puis commencer à rajouter du STMicro et du Texas
Instruments. Et Nvidia qui, grâce à Texas, d'ailleurs, renoue, c'est Étienne qui nous alertait là-dessus tout à l'heure, avec les 2 000 milliards de dollars de capitalisation, soit dit en passant. On a un rebond là de Nvidia. De votre côté, Emmanuel, comment est-ce que vous regardez le potentiel de cette thématique semi-conducteur sur laquelle on a eu pas mal d'interrogations, et un groupe comme STM notamment, là aujourd'hui on est à plus 6, est-ce qu'on déclenche un nouveau cycle, d'après vous, sur un groupe comme STM, par exemple?
C'est tout à fait possible. C'est un secteur qui, effectivement, on le remarquait, a fait preuve d'une... Comment dire, a été caractérisé par une très grande disparité, avec une très forte valorisation des valeurs comme Nvidia liées à l'imagerie électronique et, bien sûr, à l'intelligence artificielle. Pour notre part, nous préférons effectivement investir sur des valeurs qui présentent un profil peut-être un tout petit peu plus diversifié. Je pense notamment à AMD, par exemple, aux États-Unis, qui travaille non seulement dans le secteur de l'intelligence artificielle, mais également pour les serveurs. Donc, on peut effectivement se constituer un portefeuille plus diversifié, à la fois sur le côté sur le software, mais également sur le hardware, en se positionnant sur les fabricants et les spécialistes du dessin de ces outils.
Une autre thématique, alors qui marque une pause, mais qui n'en est peut-être pas, qui n'en a peut-être pas fini avec son chemin haussier, et c'est vous, Emmanuel, qui avez voulu nous alerter là-dessus, c'est l'or. L'once d'or en ce moment. 2 345 $, on a un petit peu baissé depuis le record il y a quelques jours, quand on était au top des tensions géopolitiques, notamment entre Israël et l'Iran, l'or avait battu de nouveaux records. Là, depuis, il s'est affaissé, mais pour vous, cette baisse de l'or n'est qu'une pause, son chemin haussier, son trend haussier n'est pas encore achevé.
Oui, je pense qu'effectivement, on a encore un potentiel pour l'or. Alors, ça c'est pas véritablement, le mot affaissé me paraît un peu excessif. Oui. Il s'est écrété en repli, effectivement, par rapport au record qui avait été franchi il y a quelques jours, avec plus de $2 450 l'once, qui était constitué finalement le record historique depuis une centaine d'années. Oui, je pense qu'il y a quatre facteurs en fait globalement qui poussent l'or. Vous avez la croissance, les anticipations d'inflation, les coûts de l'énergie, et puis également la perception du risque par les investisseurs. Le point essentiel aujourd'hui, c'est que tous ces facteurs sont quand même globalement bien orientés. On a toujours de la croissance dans le monde. Le monde est en croissance, on le voit sur les marchés, donc ça c'est quand même un élément plutôt favorable. De l'inflation, on en aura peut-être un peu moins que ces derniers dernières années, mais peut-être un peu plus que nous n'en avons connu entre 1990 et 2010 globalement. Donc on voit que le monde développé est prêt à s'accommoder de niveaux d'inflation un tout petit peu plus élevés que par le passé, parce que plus d'inflation, ça veut dire également plus d'activité, et c'est également la meilleure façon de rembourser la dette. Et dans ces conditions-là, l'or constitue une valeur refuge, alors que les tensions géopolitiques et les risques en tout genre, et que l'inquiétude progresse dans le monde. Donc le fait d'avoir 10 à 15% d'or dans un portefeuille, ce qui constituait il y a encore une dizaine d'années une aberration, devient quelque chose qui est assez logique. Et comment dire, il n'y a rien d'anormal lorsqu'on sait que traditionnellement l'or dans les portefeuilles patrimoniaux, mais également dans les portefeuilles d'institutions, était considéré comme un actif stratégique. Oui. Ils ont une variable d'ajustement global des marchés financiers.
L'or vous attire énormément. Ce qui éblouit aveugle, on a parfois tendance à oublier de le rappeler, mais l'or vous attire beaucoup.
Non, on est plutôt à recommander à prendre les profits à ce niveau.
Ah bon ?
Parce que véritablement, on a eu une très belle embellie sur l'or, portée par les banques centrales, portée par une demande assez exceptionnelle venant de pays comme la Chine et l'Inde. On est sur des niveaux où il est compliqué de voir les banques centrales continuer d'acheter à un tel rythme.
Pourquoi ? Pour des raisons...
Parce que une raison de prix, en fait. Ouais. Ce sont des programmes qui sont quand même assez réguliers. Donc, il y a eu un peu d'emballement, là, suite au contexte géopolitique. En plus de ça, quand même, les corrélations existent. Quand les taux longs et les taux restent élevés ou que les taux longs montent, il y a un moment où, finalement, le rendement qu'on peut obtenir sur des actifs plus long terme devient attractif par rapport à l'or. Donc, il peut y avoir un peu un équilibrage. On a aussi eu la hausse du dollar qui finalement n'a pas pénalisé l'or. Il y a un moment où les corrélations risquent de se remettre. Alors, je partage l'opinion, il ne s'agit pas de sortir entièrement de l'or, mais si j'avais un portefeuille où j'ai 15% d'or, nous on descend à moitié, 7,5, 8. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est d'autres matières comme l'uranium, comme le cuivre. Et donc, tactiquement, on recommande de diversifier un petit peu hors de l'or et puis de prendre une respiration avec l'or actuellement.
Et alors, sur le marché actions, est-ce que l'Europe vous attire de plus en plus face à Wall Street ? Tout à l'heure, David Krug, pour la financière de l'Échiquier, il était avec nous dans la Bourse Cash à 15h40. Il nous disait, on est en train d'assister et on va assister de plus en plus au comeback boursier de l'Europe face à Wall Street, parce que les astres s'alignent, nous dit-il. D'abord la BCE qui devrait baisser ses taux avant la Fed, ben ce sera bon pour l'Europe, parce que l'Europe est moins chère que Wall Street, qu'elle apporte plus de rendement aussi que le marché américain, et puis que l'offre d'actions en Europe, par les rachats d'actions, puis les sorties de cotes, l'offre d'actions tend à diminuer plus en Europe encore qu'aux États-Unis, donc moins il y a d'offres, plus ça monte. Et donc pour lui, l'Europe, oui, sera amenée à opérer un comeback boursier face à Wall Street. Est-ce que vous achetez ce discours et ce scénario ?
C'est déjà un peu le cas depuis le début de l'année. Hein. On a des belles performances sur le marché européen, surtout au niveau des grosses sociétés. Mais c'est surtout le fait que ces grosses sociétés sont actives sur l'ensemble du globe. Et donc leur capacité d'aller capturer de la croissance et du chiffre d'affaires là où il est disponible et là où on voit de la dynamique. En fait, les grosses sociétés européennes, quand vous achetez en fait l'Eurostock 50, vous n'achetez pas l'Europe. Vous achetez en fait des sociétés mondiales. Et donc, comme vous l'avez mentionné, les valorisations sont quand même plus attractives. Les dividendes sont tout à fait décents. Et ce sont des sociétés qui probablement vont publier des résultats intéressants, parce que si on a un redémarrage asiatique par exemple, les sociétés européennes vont pleinement pouvoir le refléter. Les sociétés allemandes notamment devraient pouvoir surprendre quand même dans le courant de l'année avec des résultats qui réaccélèrent. Tout ça, ça va attirer les investisseurs.
L'Europe amenée peut-être à opérer un comeback, en tout cas limiter, réduire un tout petit peu l'écart de valorisation avec Wall Street dans les prochaines semaines ou mois, Emmanuel ?
Je le souhaite ardemment. Néanmoins, pour qu'on ait véritablement un rattrapage européen, pour que l'Europe soit de retour, il faut qu'on ait de la croissance en Europe, comme le soulignait d'ailleurs mon voisin. Donc il faut que l'Europe admette d'avoir une véritable stratégie de croissance qui s'appuie sur la demande interne, sur la relance de l'investissement, de la consommation. Un pas a été fait, plusieurs d'ailleurs en ce sens, par les autorités européennes, et on a eu d'ailleurs dernièrement des contributions tout à fait significatives avec le discours remarqué de Monsieur Draghi à Bruxelles, le rapport
pressenti l'État. Pressenti peut-être d'ailleurs pour succéder à Ursula von der Leyen.
Absolument.
On voit son nom circuler.
Ursula von der Leyen ou comme peut-être président du Conseil européen. Nous verrons bien. Ouais. Néanmoins, je pense que la voie qui est fixée par Draghi, par l'État, par d'autres également, par le président de la République, il faut le souligner, va dans le bon sens. Il faut que l'Europe se prescrive une stratégie de croissance une stratégie de développement.
Étienne nous appelle à 8 minutes de la clôture depuis la tour Euronext. Rebonsoir Étienne, comment ça se présente dans quelques instants à Paris?
Bonsoir. Eh bien écoutez, c'est une séance de consolidation ce mercredi, moins 0,3% pour le CAC 40 qui est sur les plus bas niveaux de la séance, qui perd les 8100 points, 8082 points, 2 milliards d'euros négociés dans l'indice à 8 minutes du fixing. Du côté de Wall Street également, ça s'essouffle, hein, avec notamment le titre Boeing, tiens, qui est juste à l'équilibre, malgré des résultats supérieurs qu'attendus tout à l'heure aux États-Unis, avec notamment des investisseurs américains là qui sont en train de voir Joe Biden eh bien signer un paquet d'aide, hein, quand même 60 milliards pour l'Ukraine, quasiment 30 milliards pour Israël, 8 milliards pour Taïwan, et puis surtout le texte, ça y est, visant à un changement de propriétaire de TikTok, hein, c'est fait. Donc est-ce que c'est une nouvelle passe dans les tensions géopolitiques? Ça sera à suivre. En tout cas, aujourd'hui, vous avez une pause qui s'opère, que ce soit aux États-Unis mais aussi en Europe, après deux très belles séances.
Effectivement, et vous avez peut-être, vous tous qui nous suivez, des questions sur vos portefeuilles, n'hésitez pas à nous les envoyer. Culture Bourse vous répond, Julie Cohen-Horton et ses experts, à 15h50 chaque jour. Vous nous envoyez vos questions en flashant, en scannant le QR code qui apparaît sur vos écrans depuis le milieu de l'après-midi et qui continuera jusqu'à 18h, ou encore par mail à l'adresse bfmbourse@bfmbusiness.fr.